Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes le 10 février, soyez les bienvenus. Le journal, bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour, fin de Daesh en Syrie, une question d'heure. Selon les forces démocratiques syriennes lancées à l'assaut de l'ultime réduit tenu par les djihadistes à la frontière irakienne, nous y serons avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Dans l'actualité encore, l'hommage de Strasbourg aux victimes de l'attentat du marché de Noël. Gilets jaunes, quand la mobilisation rime avec radicalisation, nous irons à Lyon. Fed Cup, la France en tête et une découverte scientifique, vous le verrez, qui décoiffe.
Les invités de la matinale, à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez...
Roland Kayrol pour un livre intitulé « Le président sur la corde raide ».
Et puis à partir de 8h20, la psychiatrie enfant pauvre de la médecine, on va en parler avec le professeur Marion Leboyer, elle est co-auteure d'une enquête sur la psychiatrie, l'état d'urgence, le livre est paru chez Fayard.
France Inter.
En Syrie, les heures de Daesh semblent compter.
Une question de quelques jours, tout au plus. C'est en tous les cas ce qu'affirme la force arabo-kurde, soutenue par Washington, qui a lancé ce qu'elle considère comme l'ultime assaut contre le réduit, encore sous contrôle de l'organisation djihadiste. Quelques 4 km carrés autour du village de Baghouz à la frontière irakienne. Et c'est là qu'a pu se rendre notre envoyé spécial Étienne Monin.
Hier matin, dans la grande plaine qui sert de porte de sortie pour les civils encore retenus dans la ville de Baghouz, vers 9h, on entend les premières bombes lâchées par les avions qui accentuent ensuite la cadence. La coalition concentre ses forces sur le dernier réduit de l'État islamique. Les derniers combattants se sont repliés dans le village de Baghouz, coincé entre la frontière irakienne et le fleuve Euphrate. Il serait autour de 500 d'après les forces démocratiques syriennes, au milieu de 1000 à 2000 personnes, des membres des familles ou des civils qui n'ont pas encore pu quitter l'enclave. D'après les soldats arabes sur la ligne de front, Daesh tient un périmètre de 3 km environ. Dans la ville et sur une hauteur, le groupe ne serait plus réellement en état de combattre. L'aviation prépare le terrain pour une avancée au sol des forces démocratiques syriennes. Cette dernière bataille marque la fin du califat. D'après les civils qui fuient, il y aurait beaucoup d'étrangers parmi les djihadistes dos au mur. Ceux qui sont là ont fui les derniers secteurs perdus, parmi lesquels Mossoul, Raqqa ou Deir ez-Zor. Dans le secteur de Baghouz, Étienne Monin, France Inter.
Si Daesh est vaincu sur le territoire syrien, le groupe État islamique dispose encore, selon l'ONU, de finances suffisantes et de milliers de militants pour commettre des attentats. Et c'est peut-être l'un d'eux que la Direction générale de la sécurité intérieure a arrêté à Roanne, dans la Loire, fin janvier. L'homme de 21 ans a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Il est soupçonné d'avoir reçu régulièrement des images en provenance d'Irak, de Syrie, pour les rediffuser ensuite. Plus de 1400 documents auraient été retrouvés dans son téléphone portable. À Strasbourg, des dizaines de personnes se sont rassemblées jusque tard dans la nuit pour un hommage aux victimes de l'attentat du 11 décembre. 5 personnes tuées par un terroriste se réclamant de Daesh. Parmi elles, Bartek, musicien. Ce sont ses amis qui organisaient cet hommage en musique, Corinne Fugler.
Ces Strasbourgeois réunis en l'église Saint-Thomas ne connaissaient pas Bartek ni les autres victimes, mais tenaient à témoigner leur solidarité.
Je pense qu'il faut participer à ce genre d'initiative et que c'est un moment d'effervescence collective qui est très important dans un drame comme ça qui vient de passer et qui a marqué tout le monde.
Les plaies sont encore ouvertes. Il était bon de se remémorer les victimes et on peut le faire par le chant, par la musique.
On a été tous impactés par ça.
Dans la nef, un peu à l'écart, un espace avait été aménagé avec des gradins et des coussins foncés pour évoquer le café de la Petite France, les savons d'Hélène, durement frappé le 11 décembre. Claire Auduit, l'une des organisatrices de cet hommage, y tenait.
Initialement, on était vraiment que les amis de Bartek. Et puis après, on a ouvert petit à petit, on a tissé et plein de groupes qui nous ont rejoints. Et ça, c'est particulièrement enthousiasmant. Les savons d'Hélène, c'est un bar qui a été particulièrement marqué parce que ce soir-là, il y avait un groupe qui jouait. 3 des musiciens ont été blessés. Et Bartek, une des victimes de l'attentat, était un habitué du café et des scènes vertes.
Près de 150 artistes en tout ont participé à ce rendez-vous.
Reportage de Corinne Fudler. 51 000 gilets jaunes ont manifesté hier en France.
C'est le comptage du ministère de l'Intérieur. Il est contesté par les manifestants qui estiment qu'ils étaient 2 fois plus nombreux. 13e samedi de mobilisation, une nouvelle fois marquée par des violences. À Paris, un manifestant a eu une main arrachée par une grenade de désencerclement qu'il a voulu éloigner. Des voitures ont été incendiées. Un homme est en garde à vue. Il est suspecté d'avoir mis le feu à une voiture des militaires de Sentinelle. Affrontement aussi avec les forces de l'ordre à Toulouse, à Bordeaux, les deux villes où les gilets jaunes étaient les plus nombreux, 5 à 6 000, et également à Lyon, Christophe Vincent.
La manif commence bien, puis elle dégénère. Poubelles brûlées, jets de projectiles contre grenades lacrymogènes et même 10 minutes de baston ultra-violente entre fachos et gauchos, si l'on reprend leurs termes amicaux. Près du cortège, on a aussi eu droit à des échanges verbaux bien musclés.
Quand vous êtes dans un pays démocrate, si vous n'êtes pas une manif déclarée, c'est normal qu'on vous empêche.
C'est ce qu'on fait et on nous gaze, parce qu'on nous dit que ce n'est pas déclaré.
Les gilets jaunes, merde les gilets jaunes, ça fait 13 semaines que vous nous emmerdez. Vous savez pas ce que vous voulez. Stop.
Certains gilets jaunes déplorent cette violence.
On écarte tous les gens pacifiques, tous les gens modérés pour ne plus avoir que les jusqu'au-boutistes. Pour moi, il y a une stratégie, c'est pas possible. C'est la casse qu'on met en avant systématiquement. C'est une manière aussi de faire en sorte que les gens restent chez eux.
Ça rappelle Notre-Dame-des-Landes. Ça s'est fini d'une façon lamentable.
Comme les problèmes sont pas résolus, ça ressurgira dans 6 mois, dans 1 an, on sait pas.
On s'attend pas à ce que ça s'arrête. Cet été, c'est pas grave, on aura des maillots de bain jaunes sur le bord de la route.
Et d'ici là, quelques samedis animés en perspective. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et après ces nouvelles violences, le ministre de l'Intérieur dit son dégoût, son indignation. Christophe Castaner, qui sera l'invité de Questions politiques ce midi sur France Inter. Toujours à Lyon, dans le 8e arrondissement, un incendie a entraîné la mort d'une femme, d'un enfant. Il a été provoqué, cet incendie, par une explosion dans la boulangerie au rez-de-chaussée de l'immeuble. L'origine criminelle de cette explosion n'est pas écartée. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs incidents devant cette boulangerie.
Le sport, Bernadette, le sport au féminin d'ailleurs, avec des Françaises bien parties.
En Fed Cup, la Coupe Davis au féminin. Le premier tour se joue à Liège. La France mène 2-0 face à la Belgique. C'est grâce à Caroline Garcia, à Elisier, à Lise Cornet, mais aussi, il faut le reconnaître, Jean-Pierre Blimeau, à un homme, leur capitaine.
Julien Beneteau se souviendra toute sa vie de ce premier jour de capitanat. Ses deux meilleures joueuses lui ont offert 2 victoires, l'une dans la douleur, l'autre plus brillante, mais surtout, une première journée réussie.
C'était top. Je suis super heureux pour les filles, encore une fois, pour mon staff. Au moment de la victoire, il y a un soulagement, un grand bonheur aussi, de voir ces filles heureuses, qui lèvent les bras, qui sont tout sourire, qui tombent dans les bras. Et surtout, je suis heureux pour elles.
C'est Alizée Cornet qui a eu les mots les plus forts. Visiblement, elle a beaucoup apprécié son nouveau capitaine.
Je voyais la tendresse avec laquelle il me regardait et comme il était fier de moi. Il me laissait de l'air quand j'en avais besoin. J'ai pas hésité à lui dire tout ce qui me passait par la tête non plus. On le sent confiant, positif. Il en fait ni trop, ni pas assez. Un kiff, quoi.
Julien Beneteau n'a pas trouvé la recette du bon capitaine dans les livres, mais dans une préparation minutieuse, poursuit Caroline Garcia.
Oui, je pense que pour une première, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de froid ou quoi que ce soit. Il avait fait un bon travail de préparation. Il a eu un bon contact positif et simple sur ses choix et ce qu'il me disait.
Déjà tourné vers la deuxième journée, Julien Beneteau n'a pas voulu s'étendre davantage sur ses premiers émois de capitaine. Liège, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et les Bleus sont à un point de la qualification pour les demi-finales. Des Bleus au féminin aussi dans le tournoi Destination. Elles affrontent l'Angleterre cet après-midi et elles ont bien plus de chances de l'emporter que leurs homologues masculins qui jouent aussi l'Angleterre à Twickenham. On en vient donc à cette découverte scientifique. Faites l'expérience en vous regardant dans un miroir. Si vous voyez une tache, vous l'enlevez automatiquement, vous savez que c'est votre reflet. Bien, ce test qui est utilisé pour mesurer la conscience de soi est réussi d'abord par les enfants en général vers 18 mois. Des animaux aussi le réussissent, les chimpanzés, les éléphants, les pies, les dauphins.
À la marathon, on n'y est toujours pas arrivé.
Et désormais, les poissons. En tous les cas, un poisson qui vit dans les eaux chaudes du Pacifique. Sophie Bécherel.
Ils sont petits, vivent dans les eaux chaudes et tirent leur nom de leur activité favorite, les labres. Nettoyeurs communs passent leur temps à ôter les parasites du dos d'autres poissons en général plus gros qu'eux. Dans le test du miroir, la plupart des poissons de laboratoire se sont débarrassés de la tache posée sur leur corps, raconte Emmanuelle Poudéba, chercheuse au CNRS et auteure de l'intelligence animale chez Odile Jacob.
Ça peut s'interpréter très clairement, sans ambiguïté, je pense, qu'il y a une reconnaissance individuelle. Ils ont reconnu qu'ils avaient une couleur qui était marquée sur eux et ils se sont frottés pour l'enlever. Donc c'est bien qu'il y a un comportement autodirigé. Maintenant, la question qui se pose, et elle se pose depuis quasiment la création du test, dans les années 70, c'est est-ce que le fait d'avoir un comportement autodirigé, ça implique d'avoir une conscience de soi?
Doit-on aller jusqu'à parler d'intelligence?
Les poissons passent souvent pour des animaux idiots, faut dire les choses comme elles sont, qui n'ont pas de mémoire, etc. Cette expérience montre aussi qu'effectivement, on savait déjà que les éléphants, les dauphins, les pies, les grands singes, les cochons aussi réussissaient à ce test. Probablement qu'il y a beaucoup plus d'espèces qu'on pense qui réussiraient ce test.
D'autant, souligne les l'éthologue Franz De Waal en marge de la publication. Chez d'autres espèces animales, il se peut que la conscience de soi passe par d'autres sens que la vue.
Voilà, c'est fascinant et c'est dans la revue Pios Biologie.
Et on lira ça avec intérêt. Merci beaucoup. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.